Bien, je crois que nous pouvons commencer. Il est juste 17 h. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de la troisième des quatre conférences données par Carlo Ginzburg, invité au Collège de France sur une chaire d'État durant ce mois de mai. Le titre, vous le connaissez, La longue durée, virgule, la virgule est importante, à la loupe. Et je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, mais comme vous le savez, les conférences sont presque immédiatement disponibles sur le site du Collège de France, donc l'absence physique ne signifie pas l'absence d'écoute, que la trajectoire suivie par Carlo dans cette conférence, dans ces conférences a commencé par une généalogie critique de la notion de longue durée, telle qu'elle est à la fois définie par Braudel dans un article fameux de 1958, et telle qu'elle est mise en usage, telle qu'elle est pratiquée par Marc Bloch dans certains de ses essais. Et à partir de là, deux cas ont été présentés, pour résumer d'un mot l'intrigue qui est proposée par Carlo Ginzburg. Ces deux cas se référaient le premier à une réalité historique, comme on l'a vu maintenant discutée, et qui portait sur la disparition puis la réapparition du moulin à eau dans les sociétés et les économies occidentales. Et d'autre part, la semaine dernière, second exemple de ces longues durées dans lesquelles une discontinuité elle-même de longue durée fait qu'un phénomène présent disparaît puis ressurgit à un moment donné du temps. Les cas qui a été travaillé par lui la semaine dernière était celui de la présence du squelette humain et puis de son absence de très longue durée avant le XIIe siècle, à la fois dans les représentations iconographiques, les monuments ou les discours, en particulier chrétiens, sur la mort. Aujourd'hui, je crois, une autre étude de cas que nous allons découvrir ensemble. Un dernier mot, je rappelle que le lundi prochain étant lundi de Pentecôte, la quatrième et dernière des conférences de Carlo Ginzburg aura lieu le mardi, à la même heure et dans le même lieu, mais mardi.
Merci. Aujourd'hui, je poursuivrai ma discussion de la longue durée en présentant une nouvelle étude de cas. Les ressemblances et les différences entre ce cas et celui que nous avons étudié la semaine dernière, la représentation du squelette en Europe sur une durée qui couvre environ un millier d'années, émergeront au fur et à mesure. Dans la quatrième et dernière leçon, les deux cas et leur rapport offriront le point de départ d'une discussion sur la comparaison historique. Les images que je vais vous montrer maintenant se réfèrent à des lieux et à des moments précis. Ciudad de México, 1er novembre 2014, et Guadalajara, México, 2 novembre 2014. J'essaie de ralentir un peu pour montrer ces images. Voyez la Vierge de Guadalupe. Vous voyez l'image de Frida Kahlo, sans doute. Quand je les regarde, elles me semblent impressionnantes, même si je me rends compte, à les comparer à mes souvenirs, qu'elles ne transmettent qu'un écho affaibli des événements dont j'ai été le témoin qui se déroulent dans tout le Mexique le jour des morts, Día de los Muertos. Des crânes et des squelettes partout, des milliers de personnes, des femmes surtout, maquillées en squelettes, qui se reversent dans les rues, se paradent, prennent des photographies et se font photographier. Des ofrendas, à savoir de petits autels ornés de fleurs et de photographies, des bibelots et des crânes, destinés à célébrer des morts récents, qu'ils soient connus, comme Gabriel García Márquez ou Frida Kahlo, ou parfaitement inconnus. La fascination pour la mort comme élément des constructions de la soi-disant identité mexicaine a fait l'objet de nombreuses études. Il y a quelques années, l'anthropologue Claudio Lomnitz s'en est occupé dans son livre « Death and the Idea of Mexico ». Les calaveras de José Guadalupe Posada, 1852-1913, constituent un anneau essentiel de cette longue histoire, des gravures qui réélaborent de manière originale, comme André Breton le remarqua très tôt, et comme le rappelle Lomnitz, les motifs macabres présents dans la culture aztèque. Pour ce qui concerne ce dernier, je me limiterai pour l'instant à un seul exemple, une représentation de Mictlantecuhtli, seigneur de la terre des morts, conservée au musée d'anthropologie du Mexique. Aujourd'hui, Katrina, le squelette de la femme élégante inventée par Posada, est un personnage qui se trouve au cœur des rituels à la fois macabres et joueurs du Dia de los Muertos. La continuité entre la présence obsessionnelle de la mort et de ses symboles dans le Mexique moderne et de ses antécédents dans les cultures indigènes antérieures à la conquête espagnole semble évidente. Nous nous trouverions donc face à un cas typique de longue durée. Mais si nous regardons cette longue continuité de plus près, à la loupe justement, les choses semblent bien plus complexes. Commençons par une image qui a été reproduite et commentée par Eduardo Matos Moctezuma dans un livre intitulé « Les visages de la mort dans le Mexique préhispanique ». Il s'agit d'un livre écrit par un spécialiste. Matos Moctezuma est un archéologue qui fait autorité. Il est l'auteur d'études célèbres sur les Templos Mayors, mais qui s'adresse à un large public. L'image, nous apprend la didascalie, se réfère à un masque anthropomorphe en céramique, je cite, qui provient de Tlatilco, dans l'État du Mexique, et représente la dualité de la vie et de la mort, culture préclassique, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il se trouve au musée d'anthropologie du Mexique. Le visage, comme on le voit, est coupé en deux. À gauche, on voit un œil à moitié fermé, à droite, une orbite vide. À gauche, une ride qui marque le front, une narine et une moitié d'élan qui pend. À droite, un crâne dénudé et la moitié d'une file de dents bien visible. Matos Moctezuma commente l'image en citant ces vers, et je cite « Ojalá nunca muriera yo, ojalá jamás pereciera. En donde no hay muerte, en donde es la victoria, et espérons de ne mourir jamais, de ne périr jamais. Et où donc la mort n'est-elle pas là, et où est la victoire ?» Ces vers sont extraits de Cantares Mexicanos, écrit en langue nahuatl, édité et traduit par Père Ángel María Garibay. Il s'agit d'un manuscrit conservé à la Bibliothèque centrale de Mexico. Les critères orthographiques adoptés ont laissé penser que ce vers avait été transcrit avant la fin du XVIe siècle par un jésuite, à partir d'un original aujourd'hui perdu, rédigé par un père franciscain. Une âpre discussion s'est ouverte sur le sens du recueil et sur la possibilité qu'il transmette, comme le pensait Père Garibay, des témoignages qui remonteraient à une période antérieure à la conquête espagnole. Mais Garibay lui-même reconnaissait dans le recueil des Cantares Mexicanos la présence d'interpolations chrétiennes à côté des textes proprement chrétiens. L'allusion à Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, 15-55, « Mort, où est ta victoire ?» renfermée dans les vers que j'ai à peine cités, me semble évidente. J'ai longuement parlé de ce vers dans la dernière leçon. Je vais y revenir dans peu de temps. Mais s'il s'agit d'une interpolation, est-il possible d'identifier son auteur? S'agit-il de ceux qui ont transcrit les manuscrits ou, en remontant les cours du temps de leurs informateurs, indigènes convertis au christianisme, engagés dans le recueil des textes d'images promus par les franciscains Bernardino de Sahagún? Il me semble que ces hypothèses doivent être écartées. L'allusion à Paul a été introduite, selon toute probabilité, par le père Garibay, éditeur et traducteur des Cantares Mexicanos. Je formule cette hypothèse alors même que j'ignore tout de la langue nahuatl, parce que dans la traduction anglaise des Cantares, établie par John Birchhorst, qui fait autorité, le passage en question est tout à fait différent. Les voici. « May I never die, may I never be destroyed, que jamais je ne meure, que jamais je ne sois détruit. » Des victoires, pas un mot. Mais Eduardo Matos Moctezuma ne se contenta pas, comme nous venons de le voir, de citer un passage des Cantares Mexicanos en traduction espagnole. Il a défini les visages coupés en deux comme une représentation de la, je cite, dualité, dualidad de la vie et de la mort. Fin de la citation. Le même terme, dualidad, revient dans un autre passage des Cantares que le père Garibay a intitulé « Incertitude de la fin ». Je traduis une nouvelle fois à partir de sa propre traduction. Ah, où irai-je? Ah, où irai-je? Où est la dualité? Donde está la dualidad? Ce terme m'avait frappé avant que je ne tombe sur un essai très éclairant de Gertrudis Payas sur les problèmes de la traduction et ses implications historiographiques. Payas montre que, dans ses questions portant sur les traductions des textes nahuatl, éditées pour la première fois par Père Garibay, l'enjeu est politique. Il y va de la construction d'une identité mexicaine qui trouverait ses racines dans la civilisation aztèque. Mais il faut mentionner, comme je ne tarderai pas à le dire, qu'il y a aussi un tout autre enjeu qui est religieux. L'exemple choisi par Payas pour discuter des divergences qui existent entre les différentes traductions de textes nahuatl est le passage que j'ai à peine cité en trois versions. La traduction de Père Garibay, « Donde está la dualidad ?»« Où est la dualité ?» Celle de Miguel León Portilla, « El camino del Dios de la dualidad », le chemin du Dieu de la dualité, et celle de John Birchhorst, God stands in two places. Dieu se trouve dans deux endroits. Le vieux proverbe italien traduttore traditore a souvent, trop souvent, été utilisé pour annuler la distinction entre les deux termes. Si toute traduction était nécessairement une trahison, comme le suggèrent les néo-sceptiques contemporains, toute tentative pour distinguer la conception de la mort nahua d'un côté et la conception des missionnaires espagnols de l'autre ou des chercheurs contemporains serait vouée à l'échec. Or, cette distinction, il faut l'établir. Comment? Avec quels instruments? Je dois ici ouvrir une parenthèse. Des linguistes et des anthropologues se servent volontiers d'une distinction proposée par Kenneth Pike, linguiste, anthropologue et missionnaire. celle qui oppose les points de vue de l'observateur et les points de vue des acteurs, points de vue qui sont désignés par les termes éthique, éthique et imique, émique, dérivés respectivement des phonétiques, phonétique et phonémique, phonologique. Il y a quelques années, j'ai suggéré dans un essai que cette distinction avait été formulée avant la lettre d'une manière subtile et pertinente par Marc Bloch dans son essai Liberté et servitude personnelle au Moyen Âge, particulièrement en France, contribution à une étude des classes, 1933, développée ensuite dans quelques pages du métier d'historien. Mon raisonnement était en substance les suivants. Les historiens partent inévitablement des questions formulées en catégorie éthique, tout à la fois anachroniques et ethnocentriques, pour tenter de faire émerger de la documentation des réponses imiques. Mais le dialogue entre ces deux niveaux est potentiellement interminable. Cette conclusion n'a rien d'évident si on pense que Kenneth Pike a identifié la perspective scientifique avec les niveaux éthique, éthique, et Claude Lévi-Strauss, dans une conférence qui fut ensuite reprise dans Le regard éloigné, avec les niveaux imiques, émiques. J'ai parlé de deux niveaux, mais en réalité, ils sont bien plus nombreux, au point d'engendrer une série de poupées russes. Est-il licite d'introduire les termes « dualidad » dans une traduction de « cantares mexicanos » ? Encore une fois, la réponse à cette question n'a rien d'évident. J'en veux aussi pour preuve les oscillations du père Garibay, qui a proposé d'autres traductions du même passage au cours des années. « Dios de la dualidad, Dios dos ». Mais quelle que soit la réponse, elle n'interdit pas la possibilité de recourir à la notion de dualité en tant que catégorie éthique. Des catégories étrangères au langage des acteurs peuvent être utilisées au cours de la recherche à condition de ne pas les attribuer aux acteurs eux-mêmes. Refuser a priori l'usage des catégories éthiques laisserait supposer que les données documentaires pourraient être atteintes sans médiation, une thèse qui me paraît typique d'un certain positivisme naïf. Mais ce n'est qu'en gardant à l'esprit, à chaque étape de la recherche, la distinction entre les deux niveaux, éthique et émique, qu'on pourra stériliser les instruments de l'enquête en évitant la contamination des données. Or, le livre de Miguel León Portilla, « La philosophie nahuatl étudiée sur ses sources », qui a été maintes fois réimprimé, souffre d'un anachronisme irréfléchi. Puisant largement dans les traductions du père Garibay, qui est aussi l'auteur de la préface, León Portilla consacre un chapitre à la dualidad, exemplifié à travers des témoignages de genres variés, écrits et figurés. Parmi ces derniers, le masque Tlatilco que nous venons de voir. L'auteur finit par attribuer une valeur herméneutique décisive au témoignage figuré. Et je cite, « Le texte nahuatl, recueilli et transcrit alphabétiquement, implique parfois des interpolations et modifications, fruit de l'influence européo-chrétienne que l'examen critique doit identifier. Cependant, dans leur grande majorité, ils concordent avec les noyaux qui émergent des codes et des codex et de l'iconographie des monuments que nous définissons comme archéologiques. » Fin de la citation. Face à cette argumentation, l'avocat du diable pourrait se demander s'il a affaire à un cercle herméneutique ou à un cercle vicieux. Dans ce dernier cas, une catégorie externe à la culture nahuatl et fruit, elle aussi peut-être, de l'influence européo-chrétienne, comme la dualité, pourrait avoir trouvé une pseudo-confirmation dans les témoignages iconiques. Pour tester la consistance de cette objection diabolique, il ne serait pas inutile d'examiner par quelle voie les catégories de la dualité ont été appliquées à la documentation nahuatl. Quand on évoque des textes nahuatl recueillis et transcrits alphabétiquement, on fait référence avant tout au projet, grand projet, du franciscain Bernardino de Sahagún. Dans l'introduction à l'Historia General de las Cosas de la Nueva España, Sahagún explique que le médecin spirituel, à savoir le missionnaire, doit connaître la nature des maladies. Dans ce cas, les rites et les superstitions idolâtres, décrits sur la base des informations fournies par les informateurs indigènes. La métaphore de la médecine de l'âme fait partie de la tradition chrétienne, mais dans la Grèce antique, l'historia était pratiquée aussi bien par les médecins que par l'historien. Sahagún voulut être l'un et l'autre. Les Toltecs, peut-on lire par exemple dans l'Historia General, connaissaient, savaient et disaient qu'il existe 12 ciels, dont les ciels les plus hauts se trouvent, dans les ciels les plus hauts, se trouve un grand seigneur qu'ils appelaient Ometecutli, qui signifie deux fois seigneur, et sa compagne qu'ils appelaient Omesihuatl, qui veut dire deux fois souveraine. Du seigneur Ometecutli provient la chaleur qui fait naître les enfants du ventre des mères. Ces couples de divinités résidaient dans un endroit appelé Omeyocan, un terme qui ne figure ni dans l'Historia General de Sahagún, ni dans la version plus étendue de cette œuvre, restée inédite, conservée dans ce qu'on a coutume d'appeler le Codex Florentinus, qui se trouve dans la Bibliothèque Laurentiana. Plus de quatre siècles plus tard, le grand américaniste Edward Zella, dans son commentaire au Codex Vatican B, publié à Berlin en 1902, définit Omeyocan comme, je cite, « les lieux de la dualité, Zweiheit ». Fin de la citation. L'usage d'un terme abstrait utilisé par Goethe et par Hegel ne saurait étonner de la part de quelqu'un qui, dans le même commentaire, risquait une comparaison entre le mythe Nahua relié à l'eau et la philosophie de Thalès de Milet. Quelques années plus tard, le chercheur mexicain Cecilio Agustín Robelo reprit les termes de dualité dans une perspective différente, destinée à rapprocher les Nahuas du christianisme. Et je cite, « Le Dieu incorporel, invisible, créateur et soutien de l'univers, est la Omeyotl, la dualidad, tout comme dans la Trinité chrétienne, on rencontre l'unité. Le chrétien appelle l'être suprême trine et un. Les Nahuas l'appellent duel et un. » Fin de la citation. Je ne suis pas en mesure d'évaluer la pertinence de ces traductions. L'existence du terme « deux » dans la langue nahuatl ne semble pas faire l'objet des discussions. Les désaccords concernent l'abstrait, la dualité. Il me semble clair cependant que ce dernier a été utilisé pour élever le prestige de la culture nahua en la rapprochant de la philosophie ou de la théologie européenne. Deux perspectives qui ne sont pas indépendantes si on prend en considération la profonde dette que l'idéalisme allemand avait contracté à l'égard de la théologie protestante. Au fil de ces traductions, la catégorie des dualités s'est imposée comme une donnée. Il y a quelques années cependant, deux chercheurs, Ferdinand Anders et Martin Janssen, ont remis en discussion l'interprétation traditionnelle du terme Omeyocan, par lequel on avait coutume de désigner le lieu dans lequel résidaient les couples divins, en se concentrant sur l'étymologie du terme « ometeotl », par lequel étaient désignés les couples divins. Pour l'étymologie des hométhéocles, les deux paroles importantes, observent Anders et Janssen, sont homé, deux, et homitl, os. Mais la notion des dualités doit être exclue, concluait-il, comme notion abstraite, en tant qu'est-elle incompatible avec la culture indigène antérieure à la conquête espagnole. Ici, si je ne me trompe pas, on peut voir affleurer un préjugé ethnocentrique. Ce qui reste donc, sont les deux chercheurs qui concluaient, c'est l'étymologie liée à os. Dans le Codex de Tudela, il disait, à savoir, Umitecatl, à savoir Ometecutli, est évoqué comme dieu de la mort. Et ainsi, concluent les deux chercheurs, Omeyocan, les soi-disant lieux de la dualité, seraient en réalité les lieux des os. Miguel Léon Portilla, cible explicite de cette hypothèse, l'a rejetée comme une absurdité. La question doit être soumise aux spécialistes, mais je voudrais essayer de reformuler l'alternative avancée par Anders et Janssen à la lumière d'un ensemble de témoignages iconiques. Dans ce cas, à la différence de ce qui se passe avec les textes, nous pouvons exclure les traductions anachroniques et, jusqu'à preuve du contraire, les interpolations plus ou moins involontaires. Mais les objets, eux aussi, ne sont pas évidents par eux-mêmes. Entre eux et nous s'interpose une description verbale, tacite peut-être, qui relève de l'ekphrasis et qui agit comme un filtre. Et cette description est conditionnée par le contexte. La stérilisation des instruments herméneutiques dont j'ai parlé il y a peu est plus que jamais nécessaire. La masque de céramique provenant de Tlatilco et remontant à la période préclassique moyenne, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, n'est pas un unicum. Il est rapproché d'habitude du masque de Soyaltepec, Oaxaca, qui remonte à la période classique tardive, 500-800 après Jésus-Christ. Il y a d'autres images de ce masque qui est, on peut voir au musée d'Anthropología de México. La formule iconographique basée sur les visages divisés en deux parties, le vivant et les morts, la chair et le squelette, a joui d'une grande longévité. Et elle dure encore, comme on peut le constater, sur cette image. Il s'agit d'un objet qu'on peut trouver, même si ce n'est pas tout à fait facile, sur les marchés de Mexique. Revenons donc à notre point de départ, la très longue durée d'un phénomène culturel. Dans le cas des images que je viens de montrer, l'existence d'une transmission formelle ne fait aucun doute. Mais sa signification n'a rien d'évident, comme le montre une comparaison avec un portrait des dames exécuté par un peintre autrichien du XVIIIe siècle. Nous sommes immédiatement portés à lire l'image de la gauche vers la droite comme une séquence temporelle, un memento mori. Le visage poudré de cette élégante en perruque est destiné à devenir une tête de mort. Est-il licite d'appliquer au masque des Tlatilco et des Soyaltepec cette convention culturelle tacite? Il semblerait qu'une telle question soit inspirée par une perspective banalement ethnocentrique. Mais les choses sont loin d'être aussi simples. En réalité, nous nous trouvons face à une bifurcation. Certains chercheurs ont interprété ces masques en les lisant de gauche à droite du point de vue de ceux qui regardent, à savoir comme des images mortuaires qui représentent un stade liminal, le passage de la vie au squelette. D'autres chercheurs ont lu les mêmes images de gauche à droite inversement, comme expression d'une vision cyclique, d'un temps qui tourne sur lui-même. Dans ces images, on verrait l'alternance de la vie et de la mort, de la même manière qu'alternent les saisons qui dictent les rythmes de l'agriculture. J'ai mis de côté provisoirement la première interprétation et je suis la seconde, la vision cyclique. Dieu de la vie et de la mort, peut-on lire dans les didascalies qui accompagnent les masques comme celle-là, à moitié squelette, exposés au musée d'anthropologie du Mexique. Os de vie, os de mort, tel est le titre d'un essai de Gordon Brotherston, consacré à la figure complexe de Mictlantecuhtli, le dieu de la mort qui est en même temps dieu de la génération, de la conception à la naissance. Les deux étymologies proposées pour Ometeotl, le nom qui indique le couple de divinités masculines et féminines, les deux étymologies, c'est-à-dire os et dualité, pourraient ne pas s'exclure. Plutôt que des dualités, il serait peut-être opportun, pour traduire dans notre langage les images de ces visages semi-squelettiques, d'utiliser un autre terme éthique, ambiguïté. L'opposition entre les deux moitiés du visage, la chair et l'os, la vie et la mort, serait à la fois réelle et illusoire, et par conséquent ambiguë. Mais qu'est-ce qui a rendu possible la transmission de ces images dans une ère géographique aussi étendue, dans une période de temps aussi longue ? Imitation, dira-t-on. Mais depuis longtemps maintenant, les recherches de scientifiques cognitivistes nous ont appris la grande complexité qui se cache derrière ces mots d'imitation. Un phénomène tel que l'apprentissage du langage, loin de se limiter à la répétition des mots ou des phrases, implique l'appropriation d'un schéma profond qui permet de formuler des nouvelles phrases. On peut aussi supposer que la transmission des images implique quelque chose de ce genre, du même genre. Je vais essayer de vérifier cette hypothèse en analysant un objet contemporain que j'ai déniché non sans difficulté sur un marché de Mexique. Il s'agit d'une statuette de céramique colorée, haute de 30 cm, qui représente une femme debout, vêtue de blanc, au corps resplendissant, à moitié vivant, à moitié squelette. Par erreur de l'auteur de la statuette, les deux pieds et non pas un seul, sont faits en os. Dans la main droite, vissée au corps, la femme tient une faux. Dans la main gauche, un globe bleu ciel, le monde. Jusqu'ici, l'image étend sans en écarter l'iconographie des visages coupés en deux, à moitié vif, à moitié squelette, que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Mais nous sommes en présence d'une anomalie éclatante. La femme, à moitié vivante, à moitié morte, est enceinte. Son ventre transparent est plein de grains de plantes en tout genre. La femme avec la faux, qui domine le monde, est tout à la fois mort et vie. J'étais tombé sur un objet semblable sur un marché de Guadalajara. Il y en a certainement beaucoup d'autres répandus sur tous les territoires du Mexique. Je ne sais pas s'il en existe des antécédents dans l'Antiquité, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ce thème iconographique absent, pour autant que je sache, sur les continents européens, a jamais fait l'objet d'une étude. Sa signification est claire. Il s'agit d'un développement tout à la fois imprévu et cohérent de la contiguïté ambiguë de la vie et de la mort exprimée par les visages coupés en deux, à moitié vivant et à moitié squelettique. Les ventres gravides de la femme vêtue de blanc soulignent que la mort implique la vie, inversement. Dans un seul cas particulier, la contiguïté entre mort et vie devient littéralement superposition dans les minuscules crans d'argent posée sur les pubis de la femme. Comme vous l'aurez compris, je me sers de la statuette de la femme coupée en deux, à moitié vivante et à moitié squelette, pour déchiffrer la tradition bien plus ancienne qui la précède. Les masques divisés en deux, retrouvés à Tlatilco et à Soyaltepec. L'interprétation de ces objets comme des représentations d'un état mortuaire liminal pourrait être compatible avec l'autre, qui veut y voir les représentations d'un cycle cosmique, si et seulement si la mort individuelle était attendue comme un événement non irréversible. Je ne suis pas en mesure de décider. Dans chacun des deux cas, l'ajout du ventre gravide pourrait être compris comme une glose qui porterait à la lumière les significations implicites enveloppées dans le masque coupé en deux. Significations implicites pour eux, opaques pour nous. De la même manière, un informateur bilingue permet à un anthropologue d'avoir accès à une culture étrangère. Les images que je suis en train de montrer nous projettent sans aucun doute dans un monde bien éloigné de l'Europe. Quand une analogie émerge, comme dans les visages divisés en deux, à moitié vif, à moitié squelette, elle est potentiellement trompeuse. Mais depuis quelques temps, depuis quelques siècles en fait, la diversité culturelle sollicite notre soif de connaissances. Ce sentiment duplice, conscience de la diversité, pulsion à se l'approprier à travers la connaissance, domine les comptes rendus du voyage au Mexique effectué par Alexander von Humboldt en compagnie d'Aimé Bonplan et publié à Paris en 1810 dans un somptueux in-folio intitulé « Vue des cordillères et monuments de peuples indigènes de l'Amérique ». Au terme d'un voyage qui avait duré 5 ans, Humboldt écrivait, et je cite, « Un peuple qui réglait ses fêtes d'après les mouvements des astres et qui gravait ses fastes sur un monument public était parvenu sans doute à un degré de civilisation supérieur à celui que lui ont assigné Pav, Reynal et même Robertson, les plus judicieux des historiens de l'Amérique. Ces auteurs regardent comme barbare tout état de l'homme qui s'éloigne du type de culture qui se sont formées d'après leurs idées systématiques. Nous ne saurions admettre ces distinctions tranchantes en nations barbares et nations civilisées. » Fin de la citation. Page mémorable. Mais non moins mémorable, puisée sur un tout autre ton, cette autre page qui la suit de près. Je cite, « C'est en Grèce que la religion est devenue le principal soutien de César auquel elle a donné la vie. L'imagination des Grecs a su répandre de la douceur et du charme sur les objets les plus lugubres. Chez un peuple qui porte le joug d'une culture sanguinaire, la mort se présente partout sous les emblèmes les plus effrayants. Elle est gravée sur chaque pierre. On la trouve inscrite sur chaque page de leur livre. Les monuments religieux n'ont d'autre but que de produire la terreur et l'épouvante. » Fin de la citation. D'un côté, la religion de la Grèce antique, qui a su répandre de la douceur sur les thèmes les plus lugubres. De l'autre, une religion, celle du Mexique préhispanique, qui n'avait d'autre objectif que d'inculquer la terreur. Derrière l'opposition proposée par Humboldt, on entrevoit en contre-jour l'essai de Lessing sur la manière dont les anciens représentaient la mort et celui de Herder, consacré au même thème, j'en ai parlé il y a une semaine. Le cible de ces deux essais, le triomphe du macabre dans les Moyen-Âge chrétiens, a été remplacé, aux yeux de Humboldt, par un autre macabre, celui qui domine la culture sanguinaire aztèque. Mais la colonisation de l'imaginaire, évoquée par Serge Grusinski, avait aussi envahi ces domaines, avec des résultats imprévisibles. En 1596, publié à Madrid une volumineuse histoire de la fondation et description de la province dominicaine de Santiago du Mexique, racontée à travers les vies des frères les plus insignes et des événements les plus remarquables de la Nouvelle-Espagne. Écrite par les dominicains Agustín Dávila Padilla. Il était né à Mexico en 1562, devint évêque de Saint-Domingue et mourut en 1604. Dans le prologue, le frère priait le lecteur de l'excuser des défauts de l'œuvre parce qu'il était, je cite, « né et avait grandi chez les indios barbares ». Fin de la citation. C'est une excuse de principe. Dávila Padilla parle des indios avec chaleur, en louant notamment leur ferveur religieuse. Et même quand les indios ne sont pas mentionnés, on peut sentir leur présence. Sont eux les destinataires des processions installées avec faste et décrites avec minutie. Parmi ces processions, celle du Vendredi Saint est particulièrement spectaculaire. Elle avait été installée par la confrérie de la déposition et du sépulcre du Christ, fondée à Mexico en 1582, sur le modèle d'une confrérie analogue fondée par les dominicains à Rome. Dávila Padilla introduit sa description de la procession en faisant observer que, je cite, « durant toute la vie du Christ, ou presque, le style de l'Esprit-Saint, pour que nous puissions nous souvenir de ces deux natures, la nature humaine et la nature divine, a toujours uni majesté et simplicité. C'est pourquoi, par respect pour cet ordre de l'Esprit-Saint, il était juste qu'enterré comme un homme, le Christ fût célébré comme un roi, en le reconnaissant comme le vrai Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. » Fin de la citation. Les missionnaires catholiques des pays extra-européens, de la Chine à l'Amérique latine, se trouvèrent face à une entreprise des plus difficiles, convaincre les populations indigènes de vénérer un dieu crucifié. La solution mexicaine, montrer le Christ torturé, revêtu d'atours royaux et couvert de somptueux manteaux de velours, eut un succès durable. Mais dans la procession du Vendredi Saint, décrite par Dávila Padilla, le paradoxe chrétien s'enrichissait des nouveaux éléments. Et je cite. Et tout comme dans les obsèques des princes, on a l'habitude d'abaisser les étendards et d'exhiber les insignes de leurs trophées, de la même manière, lors de l'enterrement du Christ notre Seigneur, les insignes sont précédés d'un petit char ouvert d'un côté avec une croix au centre. À ses pieds est prostré la mort et pend de ses bras un panneau où on peut lire « Ubi est mors victoria tua, mort, où est ta victoire ?» et de l'autre côté « Ero mors tua, o mors, mort, je serai ta mort », reproche adressé à l'auteur de la vie qui, au prix de sa propre vie, triompha sur la mort. Fin de la citation. Dans l'Europe occidentale, comme j'ai essayé de le montrer dans ma deuxième leçon, le passage de la première lettre aux Corinthiens, dans laquelle saint Paul présente le Christ comme celui qui a triomphé de la mort, a bloqué pour 1000 ans à peu près la représentation du squelette. Quand cet interdit tacite prit fin, ce même passage de la première lettre aux Corinthiens suggéra la représentation du squelette d'Adam sous le crucifix. Dans le Mexique colonisé, on a pu assister à quelque chose d'analogue que nous pourrions définir, sur les traces de Freud, comme une formation de compromis, même si dans ce cas, il ne s'agit pas d'un compromis inconscient, mais tout à fait conscient. Dans la procession du Vendredi Saint, le squelette qui représentait la mort participait au triomphe du Christ, mort et triomphant de la mort, brandissant le passage d'Osée 13-14, « Mort, je serai ta mort », réélaboré par Isaïe d'abord, puis par saint Paul. La complexité de ce renvoi aux Écritures aura certainement échappé à la grande majorité de ceux qui assistaient à la procession du Vendredi Saint à Mexico. Mais voir le squelette mis au joug du char du Christ triomphant aura renforcé la conviction que les divinités indigènes avaient été renversées par les dieux des conquistadors. Ceux-ci avaient tué ceux-là. En linguistique historique, peut-on lire dans un dictionnaire, le substrat est la strate linguistique à laquelle s'est superposé et substitué à la suite d'une conquête ou de la domination politique et culturelle de notre peuple, une strate linguistique différente. Fin de la citation. Les changements grammaticaux et lexicaux que cette superposition provoque dans la couche supérieure sont définis comme des phénomènes des substrats. Il s'agit d'une métaphore empruntée à la géologie qui traduit un processus historique en un diagramme, un schéma morphologique et par conséquent achronique. Accomplir la trajectoire inverse de la morphologie à l'histoire signifie réintroduire les temps et donc les rapports de force que la perspective morphologique ignore par définition. Dans le phénomène des substrats, la continuité se mêle à la discontinuité. La persistance d'un trait linguistique, culturel au sens large, s'inscrit dans un contexte qui est différent du contexte précédent. Même les squelettes qui sont au centre des cultes mésoaméricains dont je m'apprête à parler peuvent être définis comme des phénomènes de substrats. Incompréhensibles en dehors de la conquête espagnole, ils sont néanmoins bien enracinés dans la culture qui les avait précédés. Le cas le plus ancien est celui de Pascual Bailón, 1540-1592, un franciscain espagnol proclamé béat en 1618. On raconte qu'en 1550, durant une peste qui s'est déchaînée au Guatemala, un indigène moribond, qui avait déjà reçu l'extrême onction, eut une apparition. Un squelette vêtu d'habits somptueux se présentant comme San Pascual de Bailón, mais la canonisation ne devait advenir qu'en 1692, aurait promis une guérison qui ne tarda pas à se produire. S'en suivit une dévotion que l'Inquisition espagnole tenta de réprimer en brûlant les images inspirées par cette apparition. Mais les cultes survécut dans une ère très étendue de l'Amérique centrale, du Chiapas au Guatemala, aujourd'hui encore, on vénère les saints représentés comme... Ah, je regrette. Oui, non, ça ne marche pas. Aujourd'hui encore, on vénère les saints représentés comme une squelette couronnée, vous avez ma description, Pascualito Muerte ou San Pascualito Rey. Les diminutifs San Pascualito dénote une familiarité affectueuse de la part des fidèles. À Nocera Superiore, dans le sud de l'Italie, un autre coin du monde qui fut lui aussi dominé par les Espagnols, le même saint est appelé San Pasquariello, Pascariello. Il s'agit d'un culte populaire, dans tous les sens du terme, qui plonge très loin ses racines, mais qui souligne la continuité entre San Pasqualito et les images préhispaniques de la mort, néglige la profonde discontinuité introduite par la christianisation. À Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, dans l'église de San Pasqualito, le saint est représenté comme un squelette dans une charrette, exactement comme dans la procession du Vendredi Saint, décrite par les deux dominicains d'Avila Padilla à la fin du XVIe siècle. L'apparente identité se trouve renversée par le contexte. San Pasqualito est une victoire posthume de la mort défaite qui s'est transformée en protecteur des infirmes et médiateur avec les mondes des morts. Christ, le vainqueur de la mort, est passé au second plan. Dans une image mise en circulation par l'église du Chiapas au XVIIIe siècle, ce n'est pas le Christ mais le pape qui triomphe de la mort. Tout comme les cultes de San Pasqualito, les cultes de la Santa Muerte puis les cibles de la répression de l'Inquisition. Pendant très longtemps, au culte marginal, Ce culte est devenu, il y a quelques décennies, un phénomène répandu, surtout, semble-t-il, parmi les groupes exposés au risque d'une mort violente, trafiquants de drogue, policiers. Dans certains cas, la dévotion à l'égard de la Santa Muerte se trouve côte à côte avec la religion officielle. Dans d'autres cas, l'élément violemment anticatholique se retrouve au premier plan. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Jésus-Christ vainqueur, qui fut vaincu sur la croix. Le début des prières à la Santa Muerte est, comme l'a commenté un prêtre catholique, une véritable déclaration de guerre. Les images de la Santa Muerte, dite de la Piadosa, reprennent l'iconographie de la Pietà de Michel-Ange pour en faire un objet de dérision. La Vierge enveloppée dans son manteau bleu est la mort. Christ est un squelette, mort comme tous les autres. À Guadalajara, le jour des morts, une des ofrendas est accompagnée d'un panneau qui commente en les ridiculisant un proverbe bien connu. Uno propone, Dios dispone, llega la muerte, y todo lo descompone. Quelqu'un propose, Dieu dispose. La mort arrive et défait tout. La mort défait tout. Elle arrive à l'os. Mais le squelette est aussi, comme toutes les représentations de la mort, un essai d'apprivoiser quelque chose qui, comme l'a écrit La Rochefoucauld, ne se peut regarder fixement.
Merci. Donc, comme à les conférences antérieures, je pense que Carlo serait tout à fait ravi d'entamer un dialogue, une discussion, peut-être deux, trois remarques, là aussi selon l'habitude, pour lancer cette possible discussion. Je crois que, comme on l'a compris aussi bien dans les précédentes conférences que dans celle-ci, Carlo Ginzburg, avec des études de cas originales, fait retour sur des préoccupations qui l'ont habité tout au long de l'écriture et de la réflexion historique qui a été la sienne. Il me semble que le moment où se cristallisait cette relation était vers la fin de la conférence, lorsque tu mentionnais qu'à l'intérieur d'une continuité transhistorique, il y avait un effet puissant d'une discontinuité qui, en l'occurrence, était celle de la christianisation. Du coup, cela m'a fait penser, en écoutant la conférence, à plusieurs registres sur lesquels on pourrait discuter cette tension fondamentale. Bien sûr, le mot « morphologie » n'est arrivé que tardivement dans l'exposé, mais les références au schème profond, emprunté au cognitivisme, ou bien la répétition de la formule sur des traditions de longue durée qui enjambent des transformations politiques comme la colonisation ou religieuses comme la christianisation, qui dans ce cas-là vont de pair, faisait affleurer cette question. Alors, le premier registre qui m'a paru, qui m'a frappé, c'est si l'on reste dans ce rapport entre une référence chrétienne qui peut être la clé d'interprétation de réalités qui lui sont antérieures, avec les débats que cela soulève, il y a évidemment d'autres dualismes qui seraient possibles à penser comme étant la source de ce dualisme imaginé ou réel des mondes précoloniaux, évidemment à commencer par la dualité de Christ lui-même. Et puis aussi, dans ce que tu montrais, l'image du visage coupé en deux pouvait référer à de très nombreuses représentations du XVe au XVIe siècle où il y a un personnage de pied en pied et dans sa face visible, triomphant et glorieux, et dans sa face cachée, dévoré par la mort. Il y a ces signaux. Étant aussi, je pense que l'exclusion était volontaire, l'écho qui pouvait être fait avec une autre forme de dualité chrétienne que toi-même as étudiée, mais qui posait d'emblée cette question de son originalité chrétienne à l'intérieur d'une universalité, et qui était la forme qu'on a évoquée la semaine dernière du double mortuaire. Donc il me semble qu'il y a un premier ensemble de références dans cette généalogie critique établie pour essayer de comprendre comment ont pu être interprétées de l'extérieur les croyances ou les représentations précoloniales, évidemment un éventail assez large de références à des dualismes qui peuvent être mis en action dans telle ou telle de ces identifications. Alors ça, c'était le premier élément qui me paraissait important. L'autre élément, me semble-t-il, c'est cet élément qui serait, tu as cité évidemment Grudzinski, c'est comment concilier cette mise en garde contre une forme de projection ethnocentrique et du coup de plaider pour des continuités transhistoriques qui ferait qu'à partir de ce moment-là, le soin méticuleux attribué aux traductions a un intérêt philologique, mais n'aurait pas forcément un grand intérêt anthropologique, dans la mesure où, si l'on postule qu'il y a cette très longue durée, identifions-la à une morphologie, à partir de cette réalité-là, qui serait la plus fondamentale, évidemment, les réflexions à la fois sur la colonisation de l'imaginaire, sur l'inadéquation de telle ou telle traduction restent importantes, mais peut-être perdent d'une certaine vivacité dans la mesure où le primat serait donné à ce qui enjambe ces moments-là. Et en quelque sorte, c'était ce que je voulais dire la fois dernière dans ton essai, dans le livre, à distance, repris ici sous une autre forme coloniale et christianisatrice, l'accent était porté sur cette discontinuité qui était introduite par le christianisme et qui organise une grande partie de l'exposé d'aujourd'hui, et en même temps, un exposé qui n'abandonne pas pour autant l'idée de tradition, de continuité, de longue durée, qui enjambe ces phénomènes qui seraient politiques ou religieux. Alors, ma dernière remarque, ce serait, est-ce que la solution que tu proposais à la fin de la conférence, lorsque la question de la discontinuité chrétienne était replacée dans son rapport avec la continuité, on va dire, anthropologique, permettait de faire retour sur cette idée que des éléments qui constituent ces continuités de très longue durée, à partir du moment où ils sont récomposés dans une configuration qui a des traits sociaux, politiques ou religieux spécifiques, peuvent voir leur signification transformée. Mais ce n'était pas ce qui était dans Storia Notturna. À l'époque, le modèle de référence était ce modèle rappelé la fois dernière, c'est-à-dire de la cladistique, dans lesquels des éléments qui sont repérables derrière des apparences qui peuvent être diverses, et ce qui permettait une réorganisation des classifications de l'histoire naturelle, n'étaient pas transformés par leur déplacement ou leur présence dans différentes configurations, dans ce cas-là, des configurations des organismes. Et donc, la question reste là, c'est-à-dire comment penser cette transformation de la signification d'invariants, si on les reconnaît comme tels, à l'intérieur de configurations profondément historiques, définies par tout ce que les historiens ont l'habitude d'étudier, et qui supposerait, dans ce cas-là, que ces éléments de la continuité anthropologique sont investis de fonctions, de rôles, de significations nouvelles. Et donc, je reste avec cette interrogation de Carlo Ginzburg par rapport à lui-même.
Oui, merci. Écoute, merci pour ces trois questions très riches, mais comme dans la Trinité, les trois questions sont en fait une, je crois. Alors, on peut essayer de répondre à ça. Et je trouve que ce qui a compliqué les jeux pour moi, les jeux, disons, le jeu de la recherche, quelque chose, un jeu très sérieux, c'est cette rencontre qui a fait était une rencontre qui avait précédé l'écriture du livre Storia Notturna, mais c'est quelque chose que j'ai, disons, sur laquelle j'ai réfléchi pendant longtemps et qui est devenu maintenant dominant. C'est-à-dire cette distinction posée par Kenneth Pike entre émique et éthique. Et je trouve qu'il s'agit d'une distinction qui est très riche parce qu'elle complique le jeu énormément. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oui, mais alors la notion de dualité, c'est tout à fait anachronistique. Il ne faudrait pas utiliser ces mots. Mais alors, si on réutilise Pike dans la façon dans laquelle j'ai proposé contre Pike lui-même, on pourrait dire, oui, mais on commence avec ça et on va essayer si, à travers cette notion de dualité, on peut saisir quelque chose qui est dans les sources mais qui est opaque. C'est, à mon avis, cette distinction de Pike dans la façon dans laquelle j'ai essayé de l'interpréter, c'est une arme contre le positivisme à tout niveau. Positivisme qui peut être sophistiqué, pas forcément naïf, mais l'idée que, alors, disons, il y a les invariantes, on peut les saisir, tandis que, à la lumière de cette distinction, on pourrait dire, oui, mais dans quel sens? Et quel est le jeu entre, disons, les contextes qui va refaçonner la continuité? Parce que, dans le cas de la continuité avec... disons, le Mexique préhispanique, on voit bien que la présence du christianisme a refaçonné les contextes et alors le côté antichrétien du culte de la Santa Muerte, c'est quelque chose qui aurait été impensable avant. Alors, je trouve que, dans cette façon, on peut, en même temps, essayer de saisir les continuités longues et les discontinuités, si elles existent, mais en même temps être très attentif au contexte. De l'autre côté, il y a la mise en jeu de l'interprète. Alors, tu as dit quelque chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Tu as dit, mais évidemment, ça faisait partie du jeu. C'est-à-dire que tu as dit, disons, les soucis philologiques pour la traduction, au fond, pourraient être marginaux, etc. Tandis que, évidemment, dans la perspective où je me place, les mots philologiques, c'est les mots au sommet de la recherche, philologie dans le sens large du mot, lancée par Giambattista Vico. Alors, c'est philologie, mais c'est aussi l'antiquaire, ce sont les documents écrits, mais ce sont aussi les images, etc. Alors, disons, essayer de saisir, disons, une culture qui est différente par rapport à la nôtre, qui peut être une culture européenne, ou peut-être, disons, disons, méso-américaine, etc. Alors là, c'est, disons, le côté, comment je peux dire, essayer de travailler sur Humboldt, mais en utilisant l'approche de Vico et en refaçonnant cette idée de philologie large. Évidemment, Humboldt était très conscient du fait qu'il y avait des civilisations autres. Il l'a dit dans cette façon éblouissante. Il ne faut pas, disons, distinguer entre civilisation et barbarie dans cette façon superficielle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais alors, comment peut-on saisir ces civilisations autres, y compris, disons, le monde contemporain, il y a 3 jours, parfois. Il y a quelque chose d'opaque. Et je trouve que ce qui est au centre de l'idée de Vico, de philologie, c'est l'idée qu'il y a opacité. Opacité qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas surmonter l'opacité, mais il n'y a pas transparence. Il faut essayer, je vais reprendre tout ça dans ma prochaine leçon, mais de toute façon, il y a quelque chose, c'est-à-dire l'idée de déchiffrer la réalité. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas transparente. Il faut essayer d'en prendre la clé de tout cela. Mais au fond, c'est ce qui arrive... toujours, lorsqu'on a un dialogue, même lorsqu'on parle le même langage, etc., on essaye de déchiffrer, disons, les poses, les gestes, etc., etc. Mais, disons, évidemment, lorsqu'on parle d'une civilisation autre, c'est quelque chose au énième degré. Mais, disons, dans ce sens, j'ai essayé de, disons, travailler en même temps, comme je disais, sur, disons, la longue durée, mais en essayant de compliquer le jeu.
Juste dans ce cas-là, oui. À la différence des deux premières études de cas, il n'y avait pas a priori l'idée que quelque chose a disparu et a réapparu, puisque la tension, elle est entre ou bien quelque chose a sur un certain registre anthropologique fait continuité, et en même temps, avec la force, la puissance de la présence chrétienne, quelque chose se transforme, quelque chose est muet, quelque chose est, comme tu dis là, prend un nouveau sens, dans un nouveau contexte.
Oui, oui. Mais je me rappelle que, il y a une semaine, j'ai cité ce passage de Jean Wirth, qui disait, dans le cas du squelette, évidemment, il n'y a pas une survivance à partir de la religion païenne. Et je dis, c'est tout à fait vrai, parce que le contexte est tout à fait différent. Là aussi, il y avait un contexte qui était le contexte qui impliquait une rupture. C'est-à-dire que, alors, on peut dire d'une façon simple, oui, il y a continuité et discontinuité en même temps. C'est simple. Non, c'est compliqué. Alors, essayez de voir comment les deux choses s'entrelacent, ça, c'est compliqué.
Est-ce que tu ne crois pas, et on va ouvrir la discussion, que la notion de transformation de contexte est un peu faible par rapport à ce qui pouvait être, par exemple, l'enjeu d'un livre comme celui de Grozinski et d'autres, c'est-à-dire ici la transformation très profonde des catégories mêmes du rapport à l'autre, du déchiffrement du monde naturel, du rapport au passé. Il ne s'agit pas là d'éléments qui seraient transformés parce qu'ils sont dans un nouveau contexte, mais il s'agit finalement d'une discontinuité plus radicale qui impose une rupture de catégorie. Alors, est-ce que cette idée qui permet de sauver la morphologie dans l'historicité, c'est-à-dire la notion de contexte, est-ce qu'elle est suffisante?
C'est-à-dire que je voudrais revendiquer l'élément expérimental de ce que je voudrais partager avec vous. C'est-à-dire que dans un expériment, évidemment, il y a sélection des données. Ce n'est pas la réalité 1-1. Ce n'est pas le compte de Borges sur la carte de la Chine. Non. Alors, il y a sélection des données. Alors, j'ai essayé de montrer à travers deux études de cas, évidemment, disons, l'idée de comprimer dans une heure une histoire aussi longue que ça, aussi compliquée que ça, c'est absurde. Mais, disons, il y a quelque chose, je trouve, qui est intéressant, c'est-à-dire l'idée de comprimer deux cas et de discuter, ce que je ferai dans une semaine, en tant que tel, en tant qu'expériment, disons. Mais évidemment, ce n'est pas, disons, exhaustif, ce serait ridicule de dire ça.